Séverine Hérel, maître de conférence en psychologie cognitive et ergonomie à Rennes 2. Je suis dans le laboratoire LP3C et je travaille en fait sur les environnements vidéoludiques dédiés à l'apprentissage et puis de plus en plus sur la notion de flow et ses effets sur différentes variables psychologiques, donc par exemple l'anxiété des enfants. Je fais des projets avec les enfants en fait hospitalisés qui jouent à du jeu vidéo justement pour se détendre un petit peu, et puis plein d'autres variables psychologiques ou physiologiques. Voilà.
Et moi, je m'appelle Alexis Blanchet, je suis enseignant-chercheur à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle, dans un département de cinéma et d'audiovisuel. Mes travaux ont porté pendant pas mal d'années sur les relations entre cinéma et jeux vidéo, et puis je prépare la sortie d'un ouvrage avec un co-auteur qui s'appelle Guillaume Montagnon sur l'histoire du jeu vidéo en France. La Crit Twitch est née à Travelling il y a 3 ans, puisqu'on était venu avec Mathieu Triclot, qui est philosophe des techniques, qui a écrit Philosophie des jeux vidéo, avec cette idée qu'on avait proposée à Marine, qui est une programmatrice de Travelling, qui était d'essayer de s'emparer de Twitch, qui devient une plateforme assez utilisée par les joueuses et les joueurs de jeux vidéo. Et on s'est dit, tiens, mais est-ce que des chercheurs, des chercheuses pourraient pas faire quelque chose avec cet objet-là? Alors, la première année, on avait travaillé simplement sur la relation au cinéma et un certain cinéma spectaculaire hollywoodien autour du jeu Uncharted 4 qui venait de sortir sur PS4. L'année dernière, je suis revenu avec un collègue spécialiste des représentations de la Première Guerre mondiale, Laurent Verret, et on a travaillé sur Battlefield 1 et Soldat Inconnu d'Ubisoft. Donc c'était voilà, de confronter quelqu'un qui connaissait absolument pas les jeux vidéo à cette matière-là. Et puis dans la discussion avec Marine, on s'est rendu compte que c'était les 30 ans du festival cette année, que Travelling s'est construit autour d'une ville de cinéma chaque année. Et donc forcément, la ville s'est posée un peu comme un sujet qui pouvait être intéressant. Alors, elle est traitée de manière très variée dans les jeux vidéo. Là, l'idée, ça a été de trouver une formule, le jeu à monde ouvert. C'est une thématique, d'une certaine façon, qui rejoignait à la fois l'intérêt du festival, qui pouvait se poser dans cette relation entre cinéma et jeux vidéo, à travers le film de gangster ou le cinéma de Hong Kong. Et puis, la ville aussi, et l'espace en général, est une notion importante dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo sont des objets qui se déploient dans l'espace. Séverine parlait du flow. C'est vrai que, voilà, de temps en temps, on est dans ces espaces qu'on parcourt, et puis on est pris dans la pratique du jeu, et on est pris dans cette pratique parce qu'on déambule dans des espaces qu'on explore, qu'on cartographie, qu'on essaye de comprendre, qu'on s'approprie.
Alors, moi, je ne suis pas une grande spécialiste des GTA, donc, ou des GTA-like. Ce que je dirais, c'est que, à mon sens, quand on a commencé à proposer ce type de jeu, d'un point de vue représentation mentale, on a ouvert énormément de choses. C'est-à-dire, avant, enfin, je pense à des jeux type Mario, des jeux plateforme, où il y a bien une représentation, il y a bien un monde, mais ça reste quand même relativement limité en termes visio-spatial. Là, on est sur des mondes étendus, avec des vues objectives, on peut interagir, on sait qu'il se passe des choses à un coin de la ville, on est appelé sur notre téléphone, je pense au GTA, pour aller faire une mission à tel endroit, ou aller voir tel autre mec, on sait qu'il est à un autre bout de la ville. Donc, en termes de représentation mentale, je trouve que c'est particulièrement intéressant, cette évolution, quoi. Et je pense qu'on parlait un peu des conséquences cognitives du jeu vidéo. Je pense que, d'une certaine manière, chez les gens qui se sont mis à approprier ce type de jeu, on a sûrement vu des compétences cognitives spécifiques sur la cartographie mentale qu'on puisse développer. Et je trouve que ce type d'approche GTA-like est super intéressante pour ça. Et si je pouvais étudier un peu ces aspects-là, je pense que la relation entre cartographie mentale et jeu vidéo, je prendrais vraiment l'angle du GTA-like pour ça.
Dude, get out of the way, man. Hey, what you doing, man? Baby.
La question de l'espace, en fait, elle se retrouve même dans une histoire non marchande des jeux vidéo. Il y a des jeux qui sont développés sur les laboratoires universitaires, par exemple aux États-Unis, qui sont des jeux d'exploration de l'espace. Par exemple, un jeu qui s'appelle Hunt the Wampus. Mais évidemment, avec les moyens techniques qui sont ceux des ordinateurs et des machines à l'époque, c'est des espaces qui sont imaginés, qui sont expliqués. Donc ça va être des réseaux de couloirs qu'on va parcourir de salle en salle, par exemple. Mais on sait déjà qu'il y a un jeu Star Trek, par exemple, qui est pensé par des étudiants au début des années 70, donc en dehors de tout copyright et de toute exploitation marchande du jeu, mais qui déjà renvoie vers des imaginaires de spatiaux intergalactiques et de parcourir l'espace. Évidemment, tout ça est ramené en général à des tables de données, de ressources, parfois de noms générés aléatoirement. C'est vrai qu'avec l'arrivée des moteurs 3D qui permettent de visualiser des espaces en volume, alors avec évidemment toute une série de bidouillages techniques. On pense à Doom, qui est un jeu qui mélange à la fois des aspects 2D et 3D, mais en tout cas, on arrive à se projeter dans un mouvement qui va de l'avant dans ces espaces-là. Et il faut penser que dès le début des années 80, on savait les constituer, par exemple, avec des graphismes vectoriels. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, un des motifs qui s'impose à ce moment-là, c'est la ville. La ville, on a parlé du succès commercial, critique, de GTA, du côté du jeu vidéo français. Il y a un jeu qui s'appelle The Nomad Soul, qui a été fait par un game designer français, David Cage, qui déjà posait cette question de la ville dans l'idée d'un espace ouvert. Et donc, il semblerait que la ville, avec ses architectures, ses voies d'accès, la manière dont elle est construite aussi pour penser certains usages de l'espace urbain, elle s'adapte finalement assez bien à des logiques de jeux vidéo, qui vont être des logiques de parcours, de missions, d'aller faire des choses, d'aller découvrir des choses dans la ville. Et puis évidemment, c'est un motif de cinéma assez génial, la ville, enfin de Métropolis jusqu'à Hit ou à des films des années 2000. Enfin, on sait que beaucoup de cinéastes se sont intéressés à cet espace-là. Le travail de certains cinéastes est même lié à des villes. Donc il y a vraiment un motif là qui est transmédiatique et qui semble avoir intéressé tant les cinéastes que les game designers. Évidemment, c'est des villes assez vivantes et le jeu vidéo le permet aujourd'hui. Hier, en jouant avec Jean-Baptiste et Erwan, on était étonnés de tout le souci de détail qu'il y a dans Sleeping Dogs, qui se passe à Hong Kong. On voit toute une série de petites actions qui sont faites par des personnages non joueurs et qui donnent quelque chose d'assez vivant et finalement d'assez social à cette ville. On sent que c'est pas seulement des bâtiments, c'est pas seulement des architectures, des voies d'accès, mais c'est toute une vie qui se développe avec laquelle le personnage va interagir ou l'environnement dans lequel il va être. C'est vrai que ça va être intéressant cet après-midi quand on va discuter de Lego, parce qu'on part quand même d'un objet d'un jeu de construction, et que pour avoir pratiqué des Lego, mais comme beaucoup de générations, évidemment, on est très souvent dans des constructions qui vont grandir au fur et à mesure. Chaque fois, on cherche des pièces supplémentaires pour pouvoir faire grandir sa construction. Donc, il y a cette idée à la fois d'un lieu, et si vous dites la ville malfamée, bah oui, bah ça va créer peut-être un un peu d'antagonisme qui est parfois assez utile aux jeux vidéo. Hein. C'est vrai que les logiques d'adversité, d'avoir des ennemis à affronter, on s'est beaucoup castagné hier en jouant à Sleeping Dogs, parce que finalement, la première heure et demie de jeu nous fait rencontrer des bandes de malfrats à qui il faut casser la figure. Évidemment, dans le traitement qui va être celui de Lego City Undercover, il y a à la fois quelque chose, et ce qui va être intéressant, ça va être un peu le premier et le second degré à analyser, puisque évidemment le jeu a tous les atours de quelque chose d'assez mignon, peut-être une sorte de ville idéale, à la fois dans un environnement très pacifique, etc. Et puis, probablement un sous-texte aussi, qui est une certaine critique de la ville, peut-être du pouvoir policier aussi. On va essayer de voir ça, ce que va révéler la partie. En tout cas, c'est sûr que c'est un environnement qui invite à l'interaction, qui invite à l'action. Et pour ça, et pour ce type de jeu vidéo, ça correspond plutôt assez bien.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'était cette composante immersive, quoi, qu'on a envie. Enfin, c'est vraiment, on est dans un environnement, il se passe des choses autour de nous. Par exemple, dans Sleeping Dogs, il y avait des gens qui parlaient. Et je trouve que cet environnement-là est très propice à l'immersion, en fait, du joueur, au fait d'avoir en fait du ressenti, de voir des lumières, de voir l'appui, de se dire qu'il y a des gens qui sont à côté, qui mangent, il y a des gens à côté qui discutent. Je trouve que de ce point de vue-là, c'est très intéressant, cette composante immersive qu'on retrouve pas sur certains petits jeux de plateforme où là, en fait, pour moi, la composante immersive est quand même moindre. Donc je trouve que c'est vraiment l'intérêt en fait de ce type de jeu GTA. Et après, ouais, tu disais les aspects bien, mal, antagonistes qu'on peut retrouver en ville. Voilà. Yeah, let's go. Turn it up. Introducing world famous beat junkie.
Sound and substance of the world's hottest entertainment.
Let's talk for a moment. Get up, and rock, the hump, and knock. Out the atmosphere, this rap here's something that I felt in the moment. Of truth, opponents in the booth, inspired, cause what I write is fire like roof. They say that I'm as hot as the block is. I say that I'm as cold as the darkest. Knocks hit in the gut, trying to get my nigga in the gut. He rolled by, hold his stony up, poking his chest like Cody Nut. Smoking the cess, he blow it up as it escapes out the window. I'm a symbol of sex, revolution and text on the deck. When niggas shoot for extra loot and respect, live and direct effect from the CO. Double get your paper, but stay up out of trouble, nigga, get up.
Stand up, throw your fucking hands up if you got the feeling. Jump up, touch the ceiling,
C'est toujours le jeu vidéo qui l'emporte hein, dans les phénomènes comme ça, puisqu'évidemment c'est des logiques de game design, d'expérience de l'usager, de level design aussi. Sur Sleeping Dogs auquel on a joué hier, la première constatation c'est que la concentration humaine proposée dans le jeu, même si elle paraît assez touffue, n'a rien à voir avec la réelle concentration humaine de Hong Kong. En fait, on ne peut absolument pas circuler à 70 km à l'heure dans les rues de Hong Kong, ce que permet tout à fait le jeu pour un plaisir qui est celui de la vitesse, du déplacement, de la conduite, etc. par exemple. Donc c'est assez intéressant ce positionnement des studios de développement entre à la fois d'un côté un souci d'authenticité, ça s'est beaucoup vu par exemple si vous observez les simulations de conduite des années 2000 où on vous disait ah on a reconstitué le centre de Barcelone pour les besoins du jeu, le centre de telle ville, et puis quelque chose qui s'adapte beaucoup plus au plaisir du jeu, à l'évocation l'émission, hein, tout simplement. Si vous comparez un jeu comme Project Gotham Racing, par exemple, d'un côté, et puis Outrun 2 de l'autre, vous allez avoir des environnements urbains dans l'un comme dans l'autre. Celui d'Outrun 2 va vous faire une visite de Paris où vous passez de l'Arc de Triomphe à la Bastille, puis à la Tour Eiffel, dans une espèce de voie qui est totalement pensée pour pouvoir avoir tous ces points de repère très touristiques sur la ville. Là où Project Gotham Racing va plutôt dire non, mais on a vraiment fidèlement modélisé les rues de la ville. Donc il y a des enjeux assez différents sur les jeux auxquels Sleeping Dogs auxquels on a joué hier. Donc il y a un effet d'adaptation. Il y a même quelqu'un qui connaissait la ville hier qui est intervenu pour dire il y a des choses comme l'ambiance de la skyline de Hong Kong qui fonctionne assez bien, mais il y a des choses qui sont totalement imaginées pour les besoins du jeu. Et puis Lego City Undercover, voilà, c'est vraiment une ville pensée sur un modèle nord-américain de centre-ville urbain avec ses quartiers, quartiers d'affaires, quartiers d'habitation, etc. Mais qui est là, est une sorte de ville assez schématique pour les besoins du jeu. Mais c'est vrai que voilà, on a toujours un peu cette tension entre le souci d'authenticité, qui est une des promesses souvent portées par le jeu vidéo, ça a été fait comme sur le modèle 2, et puis les besoins qui sont ceux des game designers, des level designers, de produire une expérience. Et parfois la ville, ça peut être un peu pénible, hein. Je veux dire, Los Angeles, c'est très très étalé, il s'y passe pas grand chose sur des kilomètres et des kilomètres, puis il y a une espèce d'environnement urbain qui est très uniformisé du fait des magasins ou des marques qu'on retrouve comme ça de magasin en magasin. Là il va falloir composer avec à ce moment-là. Ouais.
GTA a tellement marqué les esprits avec San Andreas et tout ça que du coup je pense que, enfin, quand on regarde Lego Undercover, je pense que ça a beaucoup inspiré en fait les personnes qui ont développé ce jeu-là, donc on retrouve ces codes-là. Après, je saurais pas trop dire si Sleeping Dogs ça reprend un petit peu des codes de ce point de vue-là, enfin, de la ville américaine en soi, enfin, transposée à Hong Kong. Cela dit, Hong Kong, c'est quand même, une colonie britannique.
Oui, d'une certaine façon, il y a ouais. cet historique-là ouais. de la ville qui en fait un centre d'affaires international, et donc là aussi des logiques d'uniformisation.
Donc c'est pas un hasard.
C'est vrai que sur Lego City Undercover, ce qu'on va avoir aussi, c'est la logique de parodie, et de parodie d'un genre.
Hi there, I'm Chase.
Yeah, it's the guy you told me about. Chase McCain!
Who's that? I was just resting my eyes and my arms and my legs. It's you again. Briefing room! 1 minute! Right.
Oui, avec là une vision plus historique. Donc, on retrouve un peu la logique d'authenticité et le discours autour des jeux Assassin's Creed et de défendre une forme de travail historique qui, d'ailleurs, à certains égards, peut être reconnu par les historiens. Et en même temps, on est toujours aussi dans des logiques qui sont celles de rappeler un certain imaginaire. Si on prend le cas de Unity qui se passait en France, le fait que le drapeau bleu, blanc, rouge apparaisse de manière totalement anachronique, mais en même temps semble rattaché à certaines représentations de la Révolution française, par exemple via Eugène Delacroix. Donc là, tout est affaire de négociation, puis il ne faut pas perdre de vue que c'est des objets de fiction, c'est des objets d'imaginaire. De devoir augmenter la taille de certains monuments pour les rendre un petit peu plus spectaculaires, comme on a pu le voir sur l'Assassin's Creed Origins, par exemple. Ça a été une des remarques qui a été faite par des observateurs. Là, on sent que le jeu, dans sa représentation d'une ville historique, négocie avec d'autres représentations qui sont celles probablement du film épique, du film à thématique mythologique ou à thématique historique, type péplum, tout simplement. On est toujours sur des objets qui se situent à l'intersection d'à la fois de pas mal de contraintes et en même temps de pas mal d'imaginaire. Oh.
Whoa. sandstorm coming.
Je pense qu'il y a des effets de centralité dans l'architecture, par exemple. C'était ce qui avait accompagné une sorte d'engouement autour de SimCity au début des années 90, où même je crois que l'Association des maires de France faisait la promotion du logiciel. Et certains sociologues, certains géographes, en effet, ont fait, à juste titre, remarquer qu'il y avait une idéologie sous-jacente, puisque les conditions de la victoire dans le jeu faisaient qu'on se rapportait forcément à un modèle de ville nord-américain tel qu'il se développe dans la deuxième partie des années 50, c'est-à-dire avec un centre-ville d'affaires, assez nettoyé d'ailleurs des populations et des populations les plus fragiles, des habitations en banlieue, des axes de circulation forts, un port également qui est un... Bon, donc là, c'est probablement que ça renvoie aux représentations et aux biais qui sont ceux des créateurs de ces jeux, qui d'une certaine façon prennent pour les seuls et les plus performants et les plus optimums les modèles qu'ils connaissent et ceux qui sont les leurs, puisque SimCity est un jeu américain. Donc ça probablement nous interroge là-dessus, mais c'est vrai que là, de but en blanc, pour le coup, je ne vois pas de modèle de ville particulièrement innovant, inattendu. C'est vrai que ce type de jeu-là, par rapport au format de la Critwitch, qui est à peu près une heure et demie, est peut-être pas forcément super adapté, parce que sur un City Builder, tu peux partir sur des 3 heures, 4 heures avant d'avoir un embryon de ville et de construction. Et puis c'est vrai qu'on est dans un festival de cinéma, et donc on a trouvé que l'entrée par le genre cinématographique, le film policier, le thriller, le film de gangster, nous permettait de désigner ces deux jeux-là. Je sais qu'on a... Moi, j'ai pensé à un moment peut-être à proposer Max Payne 3, puis en y rejouant, je me suis rendu compte qu'on était essentiellement dans des intérieurs de ville. Alors, on a évidemment un environnement autour sous la forme d'un décor, cette fois-ci, qui est une autre question intéressante, qui renvoie à l'environnement urbain, mais l'essentiel de l'action se faisait en intérieur. Et c'était... Bon, ça c'était... je m'étais dit, tiens, ça pourrait amener vers une ville latino-américaine, puisque l'action se passe au Brésil. Mais bon, donc là, c'est plutôt la thématique cinéma de Travelling qui a fait ce choix, mais il y aurait probablement à faire sur un format un peu plus long, peut-être une nuit de la Critwitch qu'on pourrait organiser, où on commencerait à 20h, on terminera à 5h du matin, avec une ville sur un city builder qui est en effet tout à fait un genre de jeu qui exploite cette matière-là. Ouais.
Andaio
Entio
Ac Inecirec
In which Ac
In which you are here. Greg, you are here.
Benito, you are here.
Au niveau du City Builder, en fait, quand on regarde dans les papiers, les recherches scientifiques, généralement, donc c'est des environnements où il se passe beaucoup de choses et on a beaucoup de choses à gérer en parallèle. Donc, par exemple, on doit construire, etc. Et en parallèle, on peut être attaqué. Et c'est parmi les jeux qui sollicitent le plus les ressources cognitives et notamment ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc, qui permettent, par exemple, de planifier des choses. Donc, tout ce qui est relatif, en fait, à ce qu'on appelle la mémoire de travail. Donc, pour dire les choses clairement, en gros, ce sont des jeux qui sollicitent énormément nos ressources cognitives. Et donc, de ce point de vue-là, ils sont assez intéressants. Il y a des jeux qui fonctionnent plus spécifiquement sur d'autres compétences cognitives, type visio-spatial. Alors, je pense au Tetris avec les rotations mentales ou ne serait-ce qu'un... Un Mario Bros avec l'aspect plateforme qui joue un peu sur les aspects visio-spatiales, etc. Sur ces jeux-là, en tout cas, plutôt des jeux type un peu à stratégie et construction, d'un point de vue cognitif, ils sont assez riches et assez intéressants. Alors après, je ne me verrais pas faire un 22h, 5h dessus. Je pense qu'à la fin, t'es lessivé, mais voilà, je trouve que d'un point de vue vraiment fonctionnement cognitif, ces jeux sont particulièrement intéressants et vraiment font énormément travailler le joueur. Moi, j'ai envie de dire, le premier truc auquel je pense, là, quand vous dites ça, ça me fait penser... Enfin, moi, je pense à Off-Road, parce que je jouais à ça sur la Game Boy. On passait énormément de temps à ça, et on voyageait effectivement dans la ville, on faisait des courses de voiture, c'était... voilà, je sais pas.
Ce qui me revient, c'est le... Moi, j'ai joué avec mes enfants à Super Mario Odyssey, là, récemment, qui est sorti sur la Switch. Et il y a une vision de New York un petit peu imaginaire autour de Donkey Kong City ou quelque chose, enfin je ne me rappelle plus bien du terme, enfin en tout cas un niveau qui se déploie dans cet univers très, très new-yorkais. Et j'ai beaucoup apprécié le fait de... Il y a un gratte-ciel central à un moment et qui permet d'avoir une sensation de vertige assez folle quand on décide de grimper dessus et de monter jusqu'en haut de la flèche, parce qu'on domine à ce moment-là entièrement cet ensemble urbain et qui voilà qui est dans un plaisir très à la fois chorégraphique d'un corps en action qui est celui de Mario qui va rebondir comme ça de paroi en paroi. J'avoue que j'ai été très très client, ça m'a renvoyé de toute façon vers cet imaginaire de d'Harold Lloyd, de Buster Keaton, du cartoon aussi à la ville, et ça confirmait quelques hypothèses que j'avais sur Mario. Pour le coup, voilà, c'est peut-être typiquement un exemple de ville utopique ou dystopique, si on en juge à la manière dont elle est constituée, et qui peut-être prend un pas de côté par rapport au modèle dominant, tout simplement parce qu'une ville sous l'océan ou une ville dans les airs, ça pose des questions nouvelles. On n'y a pas pensé. Je pense qu'on est parti dans quelque chose d'assez réaliste au sens où Travelling s'intéresse à des villes et des films qui parlent de villes existantes, mais ça pourrait tout à fait être envisageable pour la suite. Ouais. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before.
happy we'll be beyond the sea. And never again I'll go sailing. My heart will lead me there soon. We'll meet, I know we'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea.